Vous écoutez On lit pour vous.
Des aînés se déplacent librement malgré des troubles cognitifs. Un texte d'Alice Girard-Bossé paru le 8 novembre 2024 dans La Presse. À la résidence Outremont, à Montréal, pas question de confiner les résidents souffrant de troubles cognitifs, même s'ils ont tendance à s'éloigner. La direction a trouvé une solution ingénieuse pour assurer leur sécurité. Un dispositif de localisation AirTag, une initiative qui apporte une tranquillité d'esprit aux familles. Depuis 3 ans, Teresa Fernandez porte en permanence un AirTag accroché à son porte-clés. La femme de 87 ans, atteinte d'Alzheimer, a toujours été une grande marcheuse. Ça nous inquiétait parce que les pertes cognitives devenaient de plus en plus problématiques. L'AirTag lui permet de bouger autant qu'elle veut et de restreindre le moins possible sa liberté, dit sa fille Katia Paradis. Les 3 enfants de Mme Fernandez ainsi que l'équipe de la résidence Outremont ont accès en tout temps à sa localisation. « Ça nous a beaucoup aidés », dit Mme Paradis. La famille de Teresa Fernandez utilisait déjà ce dispositif avant qu'elle emménage dans la résidence Outremont il y a 2 mois. La famille a été ravie d'apprendre que la direction de l'établissement utilisait aussi cette solution. « On a trouvé ça très rassurant », dit-elle. Attachés au porte-clés ou glissés dans un sac à main, 6 de 35 résidents de la résidence Outremont portent en tout temps des AirTag. Ça fonctionne vraiment très bien, s'exclame la fondatrice de la résidence, Lynn Vincelli, qui a mis cette initiative sur pied. Les pastilles d'Apple, vendues environ 40 $, permettent de retrouver des objets perdus tels que des clés, des valises ou des portefeuilles. La localisation de ces dispositifs est accessible via l'application Localiser sur les iPhones et autres appareils de la marque. Avec le consentement des familles, la direction a choisi d'équiper de cet outil ses résidents atteints de troubles cognitifs. Si l'un d'eux est absent lors de la tournée des étages, un membre du personnel le localise et peut rapidement le retrouver, même s'il se trouve à l'extérieur de l'établissement. « Je fais toujours semblant que je suis tombé sur eux par hasard, et on continue de marcher ensemble. Je ne veux pas qu'ils se sentent suivis. » dit Mme Vincelli. Des enjeux de vie privée. Katia Paradis est tout de même consciente que cette initiative peut soulever certains enjeux liés à la vie privée des aînés. C'est une question délicate, mais je pense que dans un cas de proche aidance, ça permet de maintenir la liberté tout en préservant un filet de sécurité, dit Katia Paradis. Le résident n'a pas besoin de posséder un iPhone pour que l'AirTag puisse le localiser. Le dispositif utilise la technologie sans fil Bluetooth pour se connecter à n'importe quel appareil Apple à proximité, dans un rayon d'une 10 mètres. Le propriétaire d'un iPhone relais ne sait pas qu'il aide à localiser un AirTag ni à qui il appartient. Lorsqu'elle part marcher, la localisation de Teresa Fernandez peut rester indisponible pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un avec un appareil Apple, ce qui permet de la localiser à nouveau. Si elle ne croise personne en marchant, on ne sait pas précisément où elle est, mais ça nous permet quand même de savoir si elle est sortie de son quadrilatère de marche habituel. Quand on s'aperçoit qu'elle s'est trop éloignée et qu'elle semble perdue, on peut aller la retrouver dans la rue et la ramener de façon sécuritaire, dit Mme Paradis. Katia Paradis est consciente qu'il y a des risques à laisser une personne souffrant de perte cognitive marcher seule. Mais il faut apprendre à développer une tolérance au risque pour que la personne puisse continuer de bouger et avoir des choses positives dans sa vie, estime-t-elle. Ça me rassure beaucoup. Lynn Vincelli cherchait depuis longtemps une solution pour assurer la sécurité des aînés ayant des troubles cognitifs, sans les empêcher de sortir. Tout le monde a besoin d'aller marcher et prendre l'air. Je suis totalement contre le fait d'emprisonner des aînés. Ce ne sont quand même pas des prisonniers, dit Lynn Vincelli, fondatrice de la résidence Outremont. Avant, dès qu'une personne sortait, un employé l'avertissait et elle la surveillait à distance jusqu'à ce qu'elle décide de revenir. Mais avec la puce, ça me rassure beaucoup plus. Je suis tranquille. Les membres du personnel s'adaptent aux différents résidents qu'ils connaissent par cœur. Si l'un d'eux porte toujours ses clés autour du cou, ils y attachent l'AirTag, tandis que pour une autre qui a constamment son sac à main, ils le glissent à l'intérieur. La direction garde toujours quelques dispositifs en réserve dans leur bureau. Dès qu'il y a un danger, on l'installe, dit Madame Vincelli. C'était « Des aînés se déplacent librement malgré des troubles cognitifs », un texte d'Alice Girard-Bossé paru le 8 novembre 2024 dans la presse.
La technologie aide les aveugles et analphabètes. Un texte d'Alissa Parker paru le 27 octobre 2024 dans L'Eau vive. Grâce aux avancées en technologie, des milliers de handicapés visuels et d'analphabètes ont aujourd'hui accès aux journaux, magazines, livres et d'autres informations imprimées. Ce qui était loin d'être le cas en 1990. Un article publié en octobre 1990 dans L'Eau vive, intitulé « Les aveugles et les analphabètes seront mieux informés », écrit par Yves Lusignan, informait le public quant à un nouveau service nommé Magnétothèque. Ce service offrait alors l'accès aux journaux et livres en français en écoutant la radio. Ce service, basé au Québec, était l'un des premiers de ce type à l'époque et devenait accessible pour la première fois aux francophones hors Québec. Grâce aux progrès de la technologie tels que le téléphone intelligent, les logiciels, les lecteurs et l'intelligence artificielle, IA, tout le monde a aujourd'hui accès aux versions audio des documents écrits. Une technologie qui n'est plus réservée aux personnes avec un handicap visuel. En 2024, de nombreuses options de logiciels aident ces personnes à vivre plus indépendamment. Par exemple, Lookout de Google peut identifier les objets et offrir une assistance à la navigation. Ou encore, il y a TensorSight, qui utilise l'IA pour décrire les scènes et objets. De nos jours, chaque ordinateur dispose de la narration, du texte-parole, de changements de taille, contraste et police pour aider ceux qui en ont besoin. De plus, cet outil peut lire les PDF, documents Word, etc. En ce qui concerne l'écriture, la technologie a aussi une solution. La fonction voix à texte, qui est devenue une fonction standard sur les ordinateurs, téléphones et tablettes. À notre époque, il existe beaucoup de réseaux gratuits et payants pour trouver des livres audio. Beaucoup d'auteurs enregistrent même leurs propres livres. YouTube offre également des chapitres et livres complets. En outre, les balados ont gagné leur popularité. Ces émissions préenregistrées sur des sujets variés couvrent une large gamme de thèmes, une entrevue, une leçon d'histoire, des actualités. Cela remplace en quelque sorte la radio d'antan. Le souvenir de la magnétothèque nous rappelle une époque où l'information n'était pas aussi facilement accessible pour les personnes handicapées. Ces anciens services comptaient sur les bénévoles pour lire les documents. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui s'en charge. D'après vous, que serait-il possible de faire dans une trentaine d'années? Le monde des documents imprimés avec ses livres, journaux et magazines aura-t-il complètement disparu? C'était « La technologie aide les aveugles et analphabètes », un texte d'Alissa Parker, paru le 27 octobre 2024 dans L'Eau vive.
Enquête en cours après l'amputation de la mauvaise jambe d'un patient à l'hôpital Grace. Un texte paru le 12 novembre 2024 dans Radio-Canada. Une enquête est en cours à l'hôpital Grace après qu'un patient a affirmé que l'équipe soignante s'était trompée en amputant sa jambe gauche au lieu de sa jambe droite. L'Office régional de la santé de Winnipeg a annoncé que son équipe de sécurité des patients examinait les circonstances dans ce qu'elle décrit comme une situation clinique complexe. Jason Kennedy, âgé de 48 ans, est un ancien pêcheur commercial. Il sait qu'il pourrait un jour perdre les deux jambes. Entre-temps, il explique avoir été admis à l'hôpital Grace en raison d'une infection osseuse au pied droit, et le médecin d'un autre hôpital lui avait indiqué que cette jambe devait être amputée. En me réveillant de l'anesthésie, en me retrouvant dans ma salle de récupération, j'étais incrédule. Incrédule en voyant qu'on avait amputé la mauvaise jambe, explique Jason Kennedy. Je savais pertinemment qu'il s'était trompé. Jason Kennedy, qui vit à Winnipeg et est originaire de la Première Nation de Blood Vine, raconte s'être rendu à l'hôpital général Seven Oaks le 23 octobre en raison de douleurs et de saignements au pied droit. L'amputation à l'hôpital Grace a été ordonnée le 28 octobre et a eu lieu 3 jours plus tard. Je me demandais s'il s'agissait d'un mauvais rêve, dit Jason Kennedy. La douleur est toujours présente dans mon pied droit, et c'est encore le cas au moment où nous nous parlons. Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole de l'Office régional de la santé de Winnipeg affirme que la confidentialité des patients limite la quantité d'informations que l'Office peut fournir dans cette situation clinique complexe. Nous sommes conscients de l'incident et de la détresse qu'il a causée aux patients, à sa famille et aux prestataires de soins, peut-on lire dans la déclaration. Les membres de l'équipe soignante ont personnellement rencontré le patient pour lui présenter leurs sincères excuses et discuter des prochaines étapes. L'incident est actuellement examiné par notre équipe de sécurité des patients afin de déterminer les possibilités d'apprentissage du système. Les résultats de cet examen seront communiqués au patient une fois qu'il sera terminé. Jason Kennedy confirme que son chirurgien et 2 de ses collègues lui ont présenté leurs excuses. Pas possible. Jason Kennedy a choisi de raconter sa mésaventure pour éviter que cela n'arrive à quelqu'un d'autre. Il affirme avoir pardonné son erreur à l'équipe soignante et avoir accepté qu'il ne récupérerait pas sa jambe gauche. J'ai tout de suite su que c'était ma jambe gauche qui avait disparu et je me suis dit que ce n'était pas possible, dit Jason Kennedy. Mes premières pensées ont été de pardonner parce que je pardonne facilement à une personne, parce que j'ai appris de ma famille, de ma mère, de mon père et de ma grand-mère à quel point le pardon est important. Jason Kennedy, qui souffre également de diabète, raconte qu'il pouvait toujours remuer les orteils de son pied gauche, dont le gonflement avait commencé à diminuer après qu'on lui eut administré des antibiotiques à Seven Oaks pour combattre l'infection. « Je leur ai dit que ça allait mieux, » relate-t-il, « bien mieux que mon pied droit, dont je ne pouvais même pas remuer les orteils. » C'est évidemment le pied droit qu'il fallait amputer. C'est la jambe qui est de loin la plus douloureuse, dit-il. Jason Kennedy reconnaît que du sang et du pus s'écoulaient également de son pied gauche. Il affirme avoir été informé qu'il courait le risque de perdre les deux jambes si les antibiotiques ne fonctionnaient pas. Yvonne Young, la mère de Jason Kennedy, est venue de l'extérieur de la ville pour lui rendre visite à Seven Oaks après l'amputation. Mais ce n'est qu'après son retour chez elle qu'il lui a raconté ce qui s'était passé avec sa jambe. « Il m'a dit, « Je ne voulais pas te le dire alors que tu devais rentrer à la maison. » »« Ils ont amputé la mauvaise jambe, » raconte Yvonne Young. Elle est fière que son fils ait pardonné à l'équipe soignante, mais elle estime qu'il faut assumer la responsabilité de ce qui s'est passé. Il doit être dédommagé pour ce qui lui est arrivé, estime-t-elle, ajoutant qu'il devrait recevoir des prothèses pour l'aider à poursuivre sa vie. C'est injuste. Yvonne Young s'inquiète de ce que l'avenir réserve à son fils, qui a vécu en situation d'itinérance pendant quelques années jusqu'en janvier 2023. « Je dois vivre avec ça », dit Jason Kennedy. « Et cela bouleverse ma vie parce que j'étais toujours debout. J'étais toujours en train de faire quelque chose. » C'était « Enquête en cours après l'amputation de la mauvaise jambe d'un patient à l'hôpital Grace », un texte paru le 12 novembre 2024 dans Radio-Canada.
Réussite scolaire. On a tous un rôle à jouer. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 3 novembre 2024 dans La Presse. Le groupe Réussir a profité de son événement intitulé « Jason éducation » qui a rassemblé quelques 200 personnes à l'Estrimont le 11 novembre pour dévoiler les 5 priorités d'action régionale stimulant la persévérance et la réussite scolaire. La valorisation de la diplomation figure en tête de liste. Le milieu de l'éducation misera sur l'importance d'obtenir une formation complète pour dénicher un emploi. Suivront des projets consacrés à la lecture et d'un choix de projet d'études ou de carrière. La conciliation études-travail, tout en insistant sur le fait que la priorité d'un jeune demeure l'école, ainsi que le soutien des parents complète la liste des pistes à favoriser. À ces actions ciblées s'ajoute une préoccupation sur la santé mentale et le bien-être. Une attention sera accordée à des groupes comme les immigrants, les anglophones, les jeunes en situation précaire et ceux avec des besoins particuliers. Selon la directrice chez Réussir, Josiane Bergeron, des gestes concrets émergeront de ces actions. Elle cite l'exemple d'une campagne régionale moussant l'importance de décrocher un diplôme. Des organismes, comme les Carrefour Jeunesse Emploi, seront mis à contribution. Tous nos partenaires porteront nos priorités, car on a tous un rôle majeur à jouer, résume-t-elle. Le dévoilement de nos 5 priorités est une étape cruciale qui témoigne de notre engagement collectif, ajoute Mme Bergeron. En unissant nos efforts, nous pouvons avoir un impact significatif sur la réussite éducative et l'adéquation formation-emploi. Mme Bergeron souligne que les efforts du passé ont déjà porté fruit, comme le prouve l'amélioration du taux de diplomation et la réduction du décrochage en Estrie. On observe un net progrès depuis plusieurs années, mais la pandémie et la pénurie d'emplois ont fait stagner et légèrement abaisser cette courbe, explique-t-elle. Voilà pourquoi il faut poursuivre notre mobilisation régionale. Taux de diplomation sur 7 ans en Estrie. Selon des données fournies par le ministère de l'Éducation, le taux de diplomation des garçons et des filles sur une période de 7 ans, entre 2015 et 2022, incluant les secteurs privés et publics, est passé de 76,8% à 79,6%. Les élèves du réseau public sortent avec un diplôme dans une proportion de 92,7%, comparativement à 76,3% dans les écoles secondaires publiques. Il s'agit d'une amélioration de 5 points de pourcentage pour les élèves du public. Les garçons demeurent à 10% sous les filles pour l'obtention d'un diplôme en 7 ans. Ils terminent leur secondaire dans une proportion de 74,7% comparativement à 84,7% pour les élèves du sexe féminin. Il s'agit d'une hausse variant de 2% à 4% dans les deux cas. C'était « Réussite scolaire. On a tous un rôle à jouer ». Un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 3 novembre 2024 dans La Presse.
Un jeune homme trisomique laissé seul au mauvais endroit par son transport adapté. Un texte d'Annie-Claude Brisson paru le 11 novembre 2024 dans Ici Saguenay, Lac-Saint-Jean. Un jeune homme trisomique de 24 ans s'est retrouvé seul au centre-ville de Chicoutimi après avoir été déposé au mauvais endroit par son transport adapté. Selon sa famille, Mathieu Lalancette, qu'il ne parle pas, a été laissé à lui-même pendant près d'une heure. Le jeune homme vivant avec la trisomie 21 devait quitter la maison Gilles-Carl samedi matin afin de se rendre à l'église Christ-Roi pour des activités. Or, le chauffeur du transport adapté de la Société de transport du Saguenay, STS, l'a déposé par erreur au centre de loisirs Joseph Niou, soit 800 mètres plus loin. Le père de Mathieu Lalancette, Serge Lalancette, soutient que son fils a erré pendant 45 minutes avant qu'un cycliste ne lui prête main forte en bordure du boulevard Saint-Paul. Il indique que ce dernier s'est rapidement rendu compte que le jeune était seul. Il est retourné au Salon de Quilles, le centre de loisirs Joseph Niou, note de la rédaction, pour s'informer s'il n'y avait pas un groupe. C'est le cycliste qui a appelé les policiers pour dire « J'ai un jeune trisomique qui est tout seul », raconte M. Lalancette. Les policiers, quand ils sont arrivés, ils ont fouillé dans sa boîte à lunch et il y avait le numéro de ma conjointe. Le policier a appelé Sonia pour lui dire que Mathieu était au Salon de Quilles, poursuit-il. Serge Lalancette indique que le chauffeur du transport adapté avait une consigne écrite de laisser son fils, qui nécessite une surveillance constante, à cet endroit. Ça, c'est sous enquête. Mais ce qu'on a su de la personne de la STS, c'est que le chauffeur a revu Mathieu sur le boulevard Saint-Paul. Le chauffeur a appelé la centrale pour dire « Mathieu allait bien aux quilles ?» Ils ont dit « Oui, il allait bien aux quilles. » Mais le chauffeur ne s'est pas arrêté, affirme-t-il. Peu de temps après cette mésaventure, lui et sa conjointe n'ont pas pu s'empêcher d'imaginer ce qui aurait pu arriver à leur fils. Ils ont toutefois fait le choix de cesser d'y penser. Ça aurait pu être grave. De 10h30 à aller jusqu'à 11h15, c'est le délai où cet enfant-là a été tout seul, sans surveillance, pas d'accompagnement, dit-il. Pour sa part, la STS affirme prendre la situation très au sérieux et confirme qu'une enquête est en cours. Elle concède qu'il s'agit fort probablement d'une erreur humaine et que si des corrections doivent être apportées, elles le seront. De son côté, l'Office des personnes handicapées du Québec trouve cette situation déplorable. Dans une réponse transmise par courriel à Radio-Canada, l'Office indique que cet incident montre encore l'importance des communications dans les organisations lorsqu'il est question de personnes vulnérables. C'était un jeune homme trisomique laissé seul au mauvais endroit par son transport adapté, un texte d'Annie-Claude Brisson, paru le 11 novembre 2024 dans Ici Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Financement des écoles religieuses. La laïcité ne va pas tout régler. Un texte d'Olivier Larose-Desnoyers, paru le 26 octobre 2024 dans TVA Nouvelles. L'arrêt complet du financement des écoles religieuses et le resserrement de la loi sur la laïcité ne vont pas tout régler dans les établissements scolaires québécois. C'est ce qu'affirme la spécialiste des relations interculturelles de l'Université de Montréal, Rachida Azdouz. Samedi, sur les ondes de LCN, la psychologue est revenue sur le mois difficile que vivent les écoles au Québec. En effet, un rapport publié le 11 octobre dernier souligne un climat de terreur à l'école Bedford à Montréal. Le tout a été imposé par 11 enseignants d'origine maghrébine. Depuis, 5 autres établissements scolaires font l'objet d'enquêtes. À l'Assemblée nationale, les députés se questionnent quant à la pertinence du financement public pour les écoles religieuses, mais à quelle limite? Selon Mme Azdouz, le souci est plus complexe que la laïcité. Ce n'est pas la laïcité qui va régler ça, c'est vraiment une question de surveillance du territoire, mentionne-t-elle à l'émission Le Québec Matin. Deux problèmes. L'experte soulève les deux principaux problèmes dans l'affaire Bedford. On a un problème d'entrisme dans les écoles et un problème de manque de courage managérial, affirme-t-elle. Les écoles doivent donc porter une attention particulière aux organismes qu'elles laissent entrer à l'école pour donner de l'apprentissage aux élèves. Pour éviter l'entrisme, il faut s'assurer qu'on fasse entrer les bons organismes et qu'on s'assure de qui entre à l'école, souligne Rachida Azdouz. Il reste tout de même que les responsables des directions d'école ont un manque des sens des responsabilités, mentionne-t-elle. Dans le cas de l'école Bedford, on ne peut pas dire que la direction l'a vu venir, pense-t-elle. Cependant, l'essayiste indique qu'il y aurait eu un potentiel conflit entre l'administration de l'école Bedford et la haute instance. On sait tous que lorsqu'une direction d'école balaie sous le tapis un problème aussi majeur, c'est parce qu'elle n'est pas soutenue par sa haute hiérarchie, expose-t-elle. La spécialiste des relations interculturelles tient tout de même à nuancer ses propos. C'est sûr que la laïcité, c'est important. Mais ce genre de problème auquel on fait face cette semaine ne se réglera pas uniquement par la laïcité, rapporte Mme Azdouz. Le syndicat doit réagir. L'intervenante ne blâme pas le syndicat pour cette problématique, mais il doit tout de même prendre une certaine part de responsabilité dans cette situation. Le syndicat a le devoir d'être clair avec ses membres sur la définition de l'autonomie professionnelle, explique-t-elle. Quand un professeur lui dit « Non, je ne vais pas laisser un orthopédagogue dans ma classe parce que ça va à l'encontre de mon autonomie professionnelle », le syndicat a l'obligation de lui dire « Non ». Ce n'est pas ça l'autonomie professionnelle. Cite en exemple Rachida Azdouz. C'était Financement des écoles religieuses, la laïcité ne va pas tout régler, un texte d'Olivier Larose-Desnoyers, paru le 26 octobre 2024 dans TVA Nouvelles.